France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen. France Musique.
Je m'appelle Antonio Pappano. Je suis né à Essex, en Angleterre, le 30 décembre 1959. Et je suis chef d'orchestre et pianiste.
Antonio Pappano, à l'âge de 13 ans, vos parents quittent l'Angleterre, direction le Connecticut. Deuxième immigration, c'est le rêve américain, c'est une opportunité, ce sont là aussi des gens qui peuvent faire famille déjà et
oui,
vous entourer.
Tout cela que vous avez mentionné, c'est tout ça. Parce que leur rêve, les États-Unis, pour recommencer, dans les années 70, c'était encore là. Ma mère a perdu une petite fille, elle avait 8 mois d'âge. Hein. Elle est morte et ma mère, de perdre une petite fille, ça, c'est dévastant. Et ça aussi a été une raison pour quitter quelque part. Elle avait sa famille, la sœur et sa mère et son père étaient aux États-Unis. Alors il y avait un lien avec le pays. Nous n'étions pas tout seuls.
J'ai lu dans une interview que vous avez donnée au Guardian en 2011 que vous disiez « In America, I had a renaissance existence ».
Les États-Unis ont le pouvoir pour un jeune de vraiment ouvrir les yeux. Parce que la culture, c'est que c'est. Mais j'ai aussi trouvé une maître de piano qui a changé ma vie. Vraiment, elle m'a compris, elle m'a quelque part créé avec toutes les influences de toute la musique pour piano, mais pas seulement Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin, etc. Mais la musique ancienne, la musique contemporaine, la musique des musicals, la musique, toute la musique populaire américaine. J'avais un horizon assez large à cause d'elle.
C'est votre premier professeur, cette Norma Verilli?
Oui, disons, j'ai étudié ici, j'avais des professeurs aussi ici, mais Norma Verilli était la professeure la plus importante, disons comme ça.
À un âge aussi, Antonio Papano, où on est, cette adolescence, je veux dire, on est perméable aussi à toutes les découvertes. C'était peut-être aussi le bon moment, le bon professeur au bon moment.
Oui, c'était le bon moment pour moi, c'est clair. C'est clair. Et nous sommes allés à Connecticut, en Bridgeport. Bridgeport est un endroit assez grand, mais ce n'est pas New York. Alors, c'était concentré, c'était compact. Je pouvais me concentrer quelque part. Clap your hands, slap your thighs, hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join the jubilee. Clap your hands, slap your thighs. Don't you lose time, don't you lose time. Come along and shake your shoes. Time now for you and me. Be treated just like a rebel. Send to the devil. Clap your hands, slap your thighs. Hallelujah, hallelujah. Everybody come along and join a jubilee. So ring a damn bell, ring a damn bell.
Why, we is the two most friendly vibrations you ever seen.
Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle.
The dishman, the wayward, the spoon. Mrs. Tallahassee, did you know why a chicken crosses the road?
No, why does a chicken cross the road?
Why, to get to the second floor, woman.
Oh, man, you is a genius. The roses are red, the violets are blue, the dresses has got to be showed. So, let's get this show on the road. Your hands, slap your thigh, give me that beat, boy, beat, boy, beat, boy, give me that, give me that, give me that, give me that crazy knockout beat. You gotta move out of the room, out of the room, if you wanna get to the promised land, you gotta clap your hands. Give me some, give me some Dixieland. When you hear that Dixieland, you gotta clap your hands.
Quand vous avez dans votre mémoire, dans ces souvenirs, que ce soit ici à Londres ou quand vous arrivez à Bridgeport, vous avez aussi, Antonio Papano, des souvenirs de concerts. Est-ce que, par exemple, enfant, vous êtes allé à Covent Garden? Est-ce que votre père aimant tant la voix? Est-ce que ce sont des choses qui
J'ai
se sont passées?
J'ai deux mémoires très fortes. Un, c'est quand j'ai vu mon père chanter I Pagliacci. Et je me rappelle que nous sommes allés au magasin pour chercher un couteau plastique, puisque il doit tuer le soprano. Et mon père avait un grand tempérament. Et en fait, j'ai vu le couteau à la fin du spectacle, c'était tout cassé, parce que c'était tellement étroit, comme il la tenait. Et ça m'a fait une grande émotion de voir mon père chantant avec si grande émotion. Et j'ai vu ici, à Covent Garden, j'ai vu Il Trovatore. Et je me rappelle que c'était très dark.
C'est sombre.
Sombre, la lumière, la scène avec les tziganes. Et Azucena, elle chantait Stride de la Vampa. Oui, l'atmosphère était très particulière et oui, j'avais un frisson. J'ai rien compris, mais quelque part, le théâtre et le feeling pour le théâtre, peut-être c'est né là.
Entretien d'Antonio Papano, France Musique.
Un mot encore sur Noma Verilli, parce que c'est tellement important, on le sent dans votre formation, Antonio Papano. Quel genre de femme c'était ? Il y avait le piano, mais c'était aussi bien d'écouter des disques, du Monteverdi. Comment c'était une leçon avec elle ?
Naturellement, comme tous les professeurs de piano, il y avait les exercices, et c'était des études. Chopin, Clementi, etc., Czerny, Hanon, etc. Mais beaucoup de musique, beaucoup de Bach, les inventions, les symphonies, et oui, la musicalité quelque part, et le phrasé, comprendre la balance des choses, l'élégance. Elle n'aimait pas tellement l'opéra, ni les chanteurs, mais elle savait que moi je suis né dans ce monde-là. Alors, peut-être elle était frustrée, mais alors elle devait me montrer toute la beauté de Chopin et tout le chant dans la musique instrumentale, qui est important aussi. Et de faire chanter un piano, c'est pas la chose la plus facile du monde. Hein. Elle était mariée à l'époque avec un musicien, Joseph Iadone, Iadone en italien, qui a étudié avec Paul Hindemith à Yale. Alors, nous faisons des exercices de rythme de Paul Hindemith et j'ai joué des sonates pour piano de Paul Hindemith et pas seulement elle, parce qu'il a écrit des sonates pour tous les instruments et j'ai accompagné plusieurs instrumentalistes dans les sonates de Hindemith. J'ai aussi connu quelqu'un qui a été très, très important dans ma vie, son professeur de composition et harmonie, Arnold Franchetti. Et Arnold Franchetti, moi j'ai commencé à étudier avec lui, un leçon par semaine. Moi, j'étais déjà très occupé avec mon père, avec tout le travail que je faisais. J'avais 16 ans, j'ai joué dans le cocktail lounge, le piano bar.
Vous jouiez du jazz à ce moment-là?
Oui, pas jazz, c'est plutôt un espèce de jazz, soft jazz quelque part. Et je jouais dans l'église, l'orgue, je jouais pour les élèves de mon père, je jouais des concerts, des leçons pour tout le monde. Alors, j'avais pas le temps vraiment pour faire la composition. Je suis vraiment frustré avec moi-même de pas avoir eu le temps pour vraiment entrer profondément. Mais il avait la patience avec moi et j'ai beaucoup appris aussi des leçons d'harmonie parce qu'il était un élève de Richard Strauss à Munich. Alors j'ai eu toute une histoire avec d'un côté pour Hindemith, de l'autre côté Richard Strauss.
Et c'était un très grand ami de Copland aussi, non?
Oui. Exact. Et j'ai joué pour Copland. Il m'a amené pour jouer des compositions de Franchetti pour Copland. Et ça, c'était une expérience très importante pour moi. Oui, j'ai eu une expérience, une enfance très colorée. Quand je me rends compte que ce que je fais aujourd'hui, je fais la même chose. Le répertoire, le fait que je dirige, je joue le piano, je travaille avec des chanteurs, je fais la même vie chargée comme toujours. J'ai une orchestre symphonique, j'ai une orchestre d'opéra, j'ai un théâtre. Ça restait très coloré, très compliqué et très, très chargé, oui.
À cette époque-là aussi, Antonio Papano, que vous rencontrez Gustav Meyer?
Oui, Gustav Meyer, il était le directeur musical de l'orchestre de Bridgeport, l'orchestre symphonique de Bridgeport. Mais il était aussi le chef de tout le programme pour des jeunes à Tanglewood, un festival très important du Boston Symphony. Et je n'ai pas étudié avec lui devant un orchestre, j'ai jamais eu l'opportunité, mais j'ai eu 7-8 fois avec lui de parler des partitions, de parler de la technique.
Donc ça vous intéressait déjà alors, Antonio Papano? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes quoi, jeune adulte? Oui. Vous avez quoi, 18-20 ans, c'est à peu près ça?
Non, plus tard.
Un peu plus tard.
Mais je savais que je devais avoir au moins les fondamentales, l'information sur comment diriger, parce que j'étais un désastre. Je n'ai pas le don du bras, you know, comme plusieurs jeunes d'aujourd'hui. Mais il m'a donné des principes très forts. Le centre, que la musique doit venir du centre de l'organisme. Les bras doivent être au près possible au corps et faire venir l'orchestre à vous. C'est facile de parler de ces choses. De le faire, c'est très difficile. Et je me rappelle toujours, quand les choses vont mal, de toujours donner la faute à toi-même, d'abord. Qu'est-ce que je fais que ça cause que ça va mal? Après, si on se rend compte que c'est quelque chose dans l'orchestre, alors ok, mais d'être très fort avec soi-même. Et ça, c'est très important. Parce que le problème avec la direction, c'est un des problématiques, disons, avec plusieurs chefs, c'est l'égoïsme qui est devant la musique ou devant la relation naturelle avec les musiciens. Et moi, je pense très fort à un lien naturel avec les musiciens. Ils doivent sentir la musique comme vous la sentez. Et un chef capable d'installer ça peut avoir des bons résultats.
C'est peut-être aussi le pianiste Antonio Papano qui vous fait aussi penser comme ça, parce que cette écoute du pianiste quand il accompagne le chanteur, cette musique de chambre.
Oui, c'est l'écoute d'un pianiste, c'est aussi le training que j'ai eu comme coach, comme chef de chant. Oui, j'aide à les autres à jouer mieux, ou à donner des conseils pour faire qu'un chante mieux ou jouer mieux. Et moi, je suis habitué à faire ça. Je peux être les oreilles. Et ça m'a beaucoup aidé, naturellement, dans ma carrière.
Ça, Antonio Papano, vous l'avez notamment appris quand vous êtes au New York City Opera. Vous entrez comme répétiteur, vous êtes jeune. Parlons peut-être un petit peu de cette expérience-là. C'est aussi le jeune homme qui quitte la famille.
C'est vrai, j'ai quitté le family business de mon père. Et ça a été assez traumatique, soit pour moi, pour le sens de la culpabilité, pour la difficulté que mon père avait pour ne pas avoir un accompagnateur. Mais je savais que l'expérience d'être en dehors, loin de ma maison, et d'avoir des nouvelles expériences dans un théâtre d'opéra, je savais que ça, c'était un endroit pour moi. Je me suis trouvé dans un monde où je... Oui, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi amené beaucoup de choses. Je jouais le piano assez bien quand j'avais 21, 22 ans. Et j'avais une exubérance et une vouloir d'apprendre et une énergie de jeune qui est très important pour un théâtre d'opéra. Der Vogelfänger bin ich ja, des Lustigkeits Obsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei allen Jungen im ganzen Land.
jetzt ihr Mädchen möchte ich, so will sie du sein, weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein, so tauschte ich drauf Zucker ein. Die welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
C'est Antonio Papano, tout jeune, que nous entendions ici à la tête de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo avec en soliste Knut Schramm en Papageno et qui dirigeait cet extrait de La Flûte Enchantée de Mozart. Ainsi se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec le maestro, réalisation Gilles Blanchard, prise de son Romain Luquien, ce mixage Manu Couturier, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.